intitulé « Sauver pour servir ». Sur la terre, nous ne sommes pas là pour nous tourner les pouces, mais pour servir Dieu. Mais avant de pouvoir servir Dieu, il faut être sauvé. C'est aussi simple que ça. Et nous avons vu différents psaumes qui nous parlaient de la qualité de service que nous devons donner à Dieu. Servir avec crainte, avec respect le Seigneur, parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas ma mère me disait des fois, tu me traites, je suis pas ta copine. Elle me disait ça. Peut-être vous l'avez dit aussi. Je l'ai dit hier à mon fils. Je suis pas ton copain. Même si on joue ensemble, je suis pas ton copain, je suis ton papa. Et Dieu, c'est notre Père céleste. C'est pas n'importe qui. On peut pas le traiter comme notre copain. On doit le servir avec respect. Et on doit le servir aussi avec joie. Le respect n'empêche pas la joie. Le respect n'empêche pas que ça soit quelque chose d'agréable, que ça soit quelque chose qui nous fait du bien, qui nous ressource, qui nous renouvelle. Et c'est tellement important. Le point commun qu'on avait trouvé dans ces deux versets, c'était qu'il était question de cette personne, seconde personne du pluriel, servez. Ce n'est pas « sers-toi tout seul dans ton coin ». Sers de manière personnelle le Seigneur. Non, servez ensemble. Il y a une unité, il y a une union quand on choisit de servir le Seigneur. Quelqu'un qui dit j'ai reçu de Dieu de le servir, mais il faut que je le fasse tout seul, ça ne vient pas de la parole de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la chair. Mais quand je reçois quelque chose qui me pousse à servir le Seigneur, alors je vais demander de l'aide à mes frères et sœurs. Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Si tout le monde devait passer le balai en même temps, ça serait un petit peu compliqué, parce qu'il n'y aurait plus d'endroit où mettre le balai, parce qu'il y aurait des pieds partout. Si tout le monde avait un balai en même temps, vous imaginez la scène, ce serait compliqué. Mais un passe le balai, l'autre fait ceci, l'autre fait cela, et le Seigneur, il permet de huiler toute cette machine. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot « église » ? Qu'est-ce que ça veut dire « église » ? C'est bien d'utiliser des mots, mais c'est bien de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire le mot « église » ? Assemblée. Littéralement, ça veut dire « appeler hors d'eux ». C'est-à-dire que c'est une assemblée qui est convoquée. Il y a un appel et du coup, les gens sortent d'un endroit pour se réunir, se rassembler. L'église, déjà, dans sa nature, est quelque chose qui nous parle d'unité. On est unis parce qu'on a tous entendu l'appel du Seigneur à sortir du péché, à sortir et à rentrer dans son royaume d'amour et de grâce. Rien que le fait de savoir que ce mot-là, église, nous parle d'assemblée, ça doit nous pousser à rechercher l'unité parce que c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas un homme qui a dit, il faut qu'on fasse l'église, ça serait bien, qui a calculé, voilà, le meilleur moyen pour que l'évangile puisse se propager, c'est qu'il y ait des églises. C'est pas ça. Jésus, il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même la mort n'a aucun pouvoir contre l'Église, contre l'assemblée de tous ceux qui croient en Jésus, parce qu'il y a une puissance, parce qu'il y a une force, parce qu'il y a une bénédiction quand on s'assemble au nom du Seigneur. Beaucoup de gens se rassemblent pour beaucoup de choses, et il n'y a pas forcément beaucoup de bien qui en sort. Mais quand on se rassemble au nom du Seigneur, il peut en sortir que du bien. Amen. Vous êtes venus pour quoi faire ce matin? Pourquoi? Pour passer un moment sympathique, pour discuter avec l'un avec l'autre, on a le droit, hein, on n'est pas empêché de cela. Mais on veut surtout d'abord se rassembler dans le nom de Jésus. J'étais étonné de voir dans la parole de Dieu un livre qui nous parle d'unité. Les 5 premiers chapitres, il y a l'expression « tous ensemble » qui est apportée dans ce livre. Est-ce que vous savez de quel livre il s'agit? Qui le sait? Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc, vous avez le droit de ne pas savoir. Mais est-ce que vous avez une idée? Les actes. Les actes, dans les 5 premiers chapitres, on voit l'expression « tous ensemble ». Les actes, c'est la suite de cette œuvre que Jésus a commencée au travers de ses disciples. Et c'est une fois que Jésus est parti, que les disciples se retrouvent tout seuls et qu'ils commencent à vraiment bâtir l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça ne peut être bâti que si ils sont tous ensemble. C'est une bonne leçon. Être tous ensemble. Servir Dieu dans l'unité, c'est déjà être tous ensemble. Alors on va commencer justement dans Actes au chapitre 4, verset 32. Et puis on verra les 5 fois où il est question d'être tous ensemble. Dans les 5 premiers chapitres, ce sont des bonnes raisons de pouvoir servir ou de pouvoir être ensemble. Mais d'abord, on commence par Actes chapitre 4, verset 32, qui nous donne l'image de ce que cela représente. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinrent sans propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Voulez-vous qu'une grande grâce repose sur vous? Que la faveur immense et infinie de Dieu qu'on a chanté tout à l'heure repose sur vous? C'est ce qu'il est dit dans ce passage. C'est possible, mais il faut qu'on ne soit qu'un cœur et qu'une âme. C'est un défi, parce qu'on a tous un cœur et on a tous une âme. Mais on veut apporter notre cœur et notre âme à cette assemblée afin que ça soit ce témoignage qui soit rendu à ce monde d'unité et que notre service amène la faveur de Dieu sur notre vie. La grâce de Dieu reposait sur eux tous. Chacun en particulier avait une portion de la grâce de Dieu. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, ça. Seigneur, je veux cette portion de grâce. Alors, cinq raisons. On va commencer dans Actes chapitre 1er, verset 12. Cinq raisons pour lesquelles nous devons servir ensemble ou être ensemble. Ce matin, je ne vais pas forcément m'attarder sur le service, mais sur le serviteur, celui que nous devons être. Parce que nous devons être serviteurs avant de servir. Notre cœur doit être un cœur de serviteur. Et nous devons apprendre à être des serviteurs ensemble. Nous devons être de ceux qui choisissent l'unité. Actes chapitre 1er, verset 12, ça commence par cette vérité qu'on doit être ensemble pour se confier. Après, on verra ensemble pour être comblé, ensemble pour se conforter, ensemble pour confronter l'adversité et ensemble pour communiquer la délivrance. Mais dans Actes 1, verset 12, il est dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. On a ici une scène qui est dépeinte où il est dit qu'ils étaient d'un commun accord. Littéralement, c'est le mot « tous ensemble », en fait, l'expression « tous ensemble » qui est là. Mais on comprend ce que ça veut dire « d'un commun accord ». Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces personnes? Qu'est-ce qu'ils faisaient d'un commun accord? Ils persévéraient dans la prière. Ensemble, ils se confiaient à Dieu dans la prière. Il y a une force incroyable quand ensemble on se confie à Dieu dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prier tout seul, puisque Jésus en a parlé, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie à cet endroit-là. Mais il y a aussi besoin vital pour chacun de nous de prier ensemble. Et si vous lisez le chapitre 1er des Actes, vous verrez qu'il y a deux grands vides qui sont là, qui sont dépeints. Deux trous béants dans le cœur des disciples qui sont encore en train de saigner de cette blessure qui a été laissée. Le premier vide, c'est Jésus qui est parti. Et on peut imaginer ce que ça représente pour ces hommes. Pendant 3 ans et demi, ils étaient avec le Seigneur Jésus jour et nuit. Ils entendaient ses enseignements, ils mangeaient avec le Seigneur, ils dormaient près du Seigneur. Ils étaient tous les soirs autour d'un feu de camp en train d'entendre ce que le Seigneur leur racontait. Et puis Acte 1er nous montre que Jésus donc leur donne des promesses et puis s'envole vers le ciel. Et là, ils regardent vers le ciel, mais ils ne voient plus. Ça veut dire que c'est la dernière fois qu'ils ont vu Jésus en chair et en os. On peut imaginer ce que ça fait. Vous avez déjà vécu des moments où vous savez que c'est la dernière fois que vous verrez une personne. Vous savez ce que ça fait dans le cœur. Mais imaginez que cette personne, c'est Jésus en chair et en os. Ça fait quelque chose quand même. Et ils sont là donc en train de regarder le ciel. Et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend qu'ils reviennent peut-être? Je sais pas. Ils ont tellement désespéré, tellement blessé, parce qu'ils savent que le Seigneur est parti pour toujours, que Dieu est obligé d'envoyer des anges pour leur dire, homme frère, alors qu'est-ce qu'il leur dit exactement? Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Il a fallu que Dieu envoie des anges pour qu'ils décrochent le magnifique paysage qu'ils avaient sous les yeux et qu'ils retournent à Jérusalem chercher le Seigneur. Le deuxième vide qu'ils avaient, et qu'on voit aussi dans ce chapitre, c'est le 12e disciple. Ils sont plus que 11. Ils étaient 12 au début. 12 qui ont vécu la même chose près du Seigneur. 12 apôtres et un maître qui était là. Mais là, ils se retrouvent sans le maître et puis sans le 12e. Et les 12, ça avait une signification profonde parce que ça rappelait les 12 tribus d'Israël. On sait que c'est un chiffre qui est important aux yeux de Dieu. Et ils se retrouvaient plus que 11. Donc, ils avaient l'impression qu'il y avait un échec aussi à ce niveau. Et on voit que dans ce chapitre, ils vont se poser la question par rapport à cela. Alors, il fallait qu'il y ait un homme qui s'éloigne de Dieu, qui laisse Satan rentrer en lui pour livrer le Seigneur. Il fallait que ces choses arrivent. Mais ça laisse un trou béant dans le cœur, encore une fois. Et le résultat, c'est que ils sont là blessés dans leur âme et dans leur conscience, mais ce qu'ils font, c'est la bonne façon, c'est la bonne chose à faire. Ils persévèrent tous ensemble dans la prière. Il y a une force incroyable face au vide qu'on peut vivre dans notre vie, face aux besoins que l'on a, face aux difficultés. Et qui peut dire ce matin, moi j'ai jamais ressenti des choses comme ça, j'ai jamais ressenti de vide dans mon cœur. Qui peut dire cela ce matin? On a tous à un moment donné, et on va tous, si vous l'avez jamais senti, vous allez sentir un jour ce que ça fait que de connaître un vide. Peut-être on regarde une chaise, on se dit, tiens, il y avait une personne à ce moment, il y a quelques années qui était assise là, qui n'y est plus. C'est un vide dans notre cœur aussi. Et on pourrait multiplier les exemples des personnes dans nos familles qui ont cru dans le Seigneur et qui sont retournées en arrière. Il y a des vides qui sont là, il y a des blessures où il y a des espérances que l'on avait et qui finalement se sont transformées en échecs et qui font qu'aujourd'hui on est là blessé dans notre cœur. Mais face à ces deux vides que les disciples ont connus, il y a eu la grâce du Seigneur. C'est comme si c'était des vases, les disciples, troués par les circonstances, mais que Dieu voulait restaurer. Ce matin, vous savez que le Seigneur, il est le divin potier qui veut restaurer chacun de nos cœurs. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre? Par la force qu'il y a d'abord à se retrouver d'un commun accord. Quelle baume sur le cœur pour les disciples, même s'ils étaient cohérents, de venir prier avec tous les autres disciples aussi. La maman de Jésus, les frères de Jésus qui avaient cru, tous les autres disciples, ils étaient 70, ils étaient même 500 à un moment donné. Ils étaient nombreux, les 120 dans la chambre haute justement. Mais ils se retrouvent ensemble. Quelle baume de savoir que quand j'ai mal au cœur, quand ça, je suis blessé, je peux venir dans la communion fraternelle et je peux retrouver du repos, parce que je sais que mes frères et mes sœurs vont prendre soin de moi. Je sais que je vais pouvoir partager mes difficultés. Je sais que je vais pouvoir épancher mon cœur et trouver la grâce dont j'ai besoin. Ça, c'est la première force. Mais la deuxième force, c'est qu'ils se rassemblent, oui, mais pas pour faire n'importe quoi, pas pour faire un michoui, pour persévérer dans la prière. C'est pas interdit les michouis, mais c'est tellement mieux, dans ces moments-là, de prier. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. La question que je vais poser ce matin, peut-être va vous paraître rude, mais c'est le Saint-Esprit, je crois, qui m'inspire à la poser. Quand est-ce que je prie avec mes frères et sœurs? Et je veux tout de suite enlever les prières du dimanche. Déjà, comme l'a bien présenté notre frère Claude, on est là d'abord pour louer, adorer, remercier, rendre grâce. La semaine dernière, à Rehoboth, on nous a parlé de gratitude. On va être dans cet état d'esprit tous les dimanches. Rendre la grâce au Seigneur, la grâce qu'il nous accorde, qui fait reposer sur nous, on veut lui redonner par notre bouche. Bien sûr qu'on a un temps d'intercession avant le culte, mais on peut facilement venir entendre les prières et se laisser porter, j'allais dire même se laisser bercer par ces prières. Ça peut arriver, je peux vous le dire que ça peut arriver. Et passer finalement à côté, ne pas vraiment prier avec notre frère et notre sœur. Et la question donc qui se pose, c'est quand est-ce que je prie avec mon frère et avec ma sœur? Quand est-ce que je prie vraiment? Quand est-ce que je suis d'un commun accord avec mon frère et avec ma sœur? Je sais, il y a des personnes qui m'ont dit que, par exemple, ils avaient invité d'autres chrétiens, d'autres croyants à venir chez eux pour passer un temps dans la prière. Ben, ces personnes, ils mettent en pratique la parole. C'est pas le pasteur qui est obligé de trouver des réunions qui vont correspondre à tout le monde pour pouvoir que tout le monde prie. Non, c'est à chacun de nous aussi de répondre à l'aspiration, à cette force que le Seigneur met devant nous, mais que c'est à nous de saisir. Si je ne prie jamais avec mes frères et sœurs, c'est que je ne réalise pas mes besoins. C'est que je ne vois pas le vide dans mon cœur. C'est que je me crois plus fort que les circonstances et plus fort que ce que je suis vraiment. C'est que je ne pense pas avoir de trou dans le vase. Mais je suis en danger quand je suis comme ça. Parce que la parole de Dieu insiste. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Combien c'est important. Si nous voulons être forts devant Dieu, de prier personnellement, oui, mais de prier aussi d'un commun accord. Ensemble, se confier dans le Seigneur. Parce qu'il y a une force de guérison incroyable. Il y a des choses qui sont changées quand on prie d'un commun accord. Il y a des situations qui sont débloquées quand on prie d'un commun accord. Il y a des directions que le Seigneur nous donne quand on prie d'un commun accord. Quel dommage ça serait d'accomplir toute notre vie un service pour Dieu sans connaître la puissance de prier d'un commun accord. Un jour, on se présentera devant Dieu et nous dira « C'est très bien, t'as fait beaucoup de choses, mais la prière avec tes frères et sœurs, qu'est-ce que t'en as fait ?» C'est le fondement. Et devant Dieu, un jour, on aura à répondre de tous nos actes. Pour avoir les récompenses, bien sûr, mais combien ? Vous voulez être récompensé ? Vous voulez être bien payé ? Vous voulez une double prime ? Mais ça me passe par l'obéissance. Celui qui obéit sera récompensé. Donnez de votre temps, donnez de votre désir, et il vous sera donné, nous a promis le Seigneur. Dans Actes au chapitre 2, verset 1er, on voit cette deuxième raison. Ensemble pour être comblés, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Littéralement, tous ensemble et d'un commun accord, c'est la même expression. Tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis, vous pouvez répéter remplis, remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils sont tous ensemble encore une fois, dans le même lieu. On peut être dans le même lieu, mais pas être tous ensemble aussi, ça peut arriver. Mais on veut se rassembler et être ensemble, être disposés d'un même cœur. Et parce qu'ils persévéraient ensemble dans la prière, ils ont pu connaître ces temps-là. Imaginez qu'ils aient dit, bon, on a prié un jour, il n'y a rien qui se passe, on arrête, chacun retourne à son activité. Est-ce que le Seigneur aurait envoyé son Saint-Esprit à ce moment-là ? Non. Le Saint-Esprit en a été envoyé parce qu'ils ont persévéré jusqu'à obtenir ce que Jésus avait promis. Et c'est bon de persévérer dans la prière parce que ça nous amène dans ces temps où on peut être comblé, où on peut recevoir et être rempli jusqu'à déborder. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ils ont débordé. Vous savez, quand Dieu répare un vase, le but de réparer le vase, c'est de le remplir. Mais c'est de le remplir jusqu'à ce qu'il déborde. Et comment est-ce qu'ils ont débordé? Alors, en français, on a deux notions dans le mot déborder, c'est pas des débordements. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont débordé du Saint-Esprit que Dieu a mis dans leur cœur. Comment le Saint-Esprit les amène à manifester sa présence en eux? Mais la première chose qu'on voit, c'est qu'ils commencent à parler dans des langues que tous les autres comprennent. Ils se mettent finalement à la portée de tous les gens qui sont autour d'eux. Le Saint-Esprit nous amène à nous mettre à la portée des gens qui sont autour de nous. Il nous amène à réfléchir, à ne pas utiliser un patois de Canaan pour rendre témoignage. Oui, le sang de l'agneau, la croix, la justification, la sanctification. Les gens, ils disent de quoi ils parlent. La gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Non, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri, j'ai prié, il m'a exaucé. Voilà, ça c'est des mots simples. Et le Saint-Esprit nous aide à nous mettre à la portée des gens. Et qu'est-ce qu'ils disent dans se mettant à la portée des gens? Vous avez remarqué quand vous lisez la suite? Ils disent, ah, ils sont dans l'étonnement, ils sont en train de parler des merveilles de Dieu. Qu'est-ce qui sort de nos bouches, frères et sœurs? Qu'est-ce qui sort de nos bouches quand nous nous adressons à ceux qui sont autour de nous? Est-ce que c'est les merveilles de Dieu ou est-ce que c'est la pluie, la météo, ce qui va pas dans ce monde et il y en a des choses qui vont pas, on pourrait faire une longue liste, ou les merveilles de Dieu? Bien sûr que on peut pas parler des merveilles de Dieu de but en blanc comme ça. Il faut la sagesse. C'est ça aussi, se mettre à la portée. Mais quand même, le but, c'est de parler des merveilles de Dieu. Voilà de quelle manière nous devons déborder dans nos vies. Voilà comment la communion fraternelle peut amener un baume autour de nous quand nous nous remplissons et nous débordons des merveilles de Dieu. Et on voit aussi qu'il y a une unité parce qu'il y a un moment donné, Pierre se lève. Il est dit que Pierre se présenta avec les 12. Pierre est au milieu des 12. Oui, au milieu des 12, puisqu'il en fait partie. Et par contre, lui seul va parler, les autres sont là derrière, en disant « Vas-y, vas-y Pierre, vas-y !» On imagine les supporters qui sont là. Il n'y a pas de jaloux en disant « Ah non, moi j'aimerais bien parler, j'aurais dit les choses un petit peu mieux que Pierre. J'aurais été plus dans l'enseignement, plus dans ceci. » Non, ils sont là, les 11 sont derrière Pierre et ils disent « Vas-y Pierre, c'est à toi. » Est-ce que nous acceptons parfois de nous taire pour que quelqu'un d'autre parle? Est-ce que nous acceptons de nous asseoir pendant qu'il y en a un autre qui se lève? Parfois, c'est ce que le Saint-Esprit nous amène à faire à cause de sa puissance qui agit en nous. On laisse la place à quelqu'un d'exprimer son service aussi. Et c'est bon d'avoir cette humilité-là. Vous savez que les pasteurs souvent ont des grands enseignements sur comment faire une prédication, des cours homilétiques, des cours qui leur expliquent comment s'exprimer en public, etc., etc. Mais vous regarderez le discours de Pierre inspiré par le Saint-Esprit. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la moitié de la prédication, c'est seulement des citations de la Bible, l'Ancien Testament. Lisez le chapitre 2, vous verrez qu'il cite de manière importante l'Ancien Testament. Et c'est bon de se remémorer dans nos cœurs les versets. C'est de cette manière aussi que le Saint-Esprit manifeste sa présence en nous. Quand de notre bouche, quand de nos raisonnements, c'est la parole de Dieu qui est imprégnée et qui sort. C'est bon d'utiliser des expressions de la Bible dans ce que l'on dit. Parce que ça façonne notre cœur, ça façonne nos pensées. Et ça nous aide à marcher sur les traces du Seigneur. Mais aussi en faisant le lien, on ne veut pas être des théologiens de la parole. Pierre, il cite des versets, mais il est très concret aussi. Il amène ces versets dans la réalité de ces personnes qui sont là. Vous avez crucifié Jésus, il est l'envoyé de Dieu, mais vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Et il peut vous sauver. C'est bien aussi de faire le lien entre la parole, la Bible, et le présent de ceux qui nous entourent. Le Saint-Esprit nous aide à déborder de cette manière. Et moi je prie, Seigneur, oui, je veux des débordements comme ça, où les gens parlent des merveilles de Dieu, les gens sont capables d'associer la parole de Dieu avec la réalité du présent d'aujourd'hui. Vous savez, autour de nous, si dans les cœurs des croyants il y a des vides, je peux vous dire que dans le cœur de ceux qui sont autour de nous, c'est pas des vides, c'est des trous noirs qu'il y a. Il y a des abîmes dans le cœur de ceux qui nous entourent. Et si nous acceptons que le Seigneur restaure notre cœur et nous remplisse, nous allons pouvoir être des bénédictions pour ces personnes. Qu'est-ce qui peut dans ce monde remplir un abîme, un puits sans fond? Qu'est-ce qui peut le remplir? Est-ce qu'une parole de la part d'un homme, d'un pasteur, va pouvoir faire quelque chose? Non. Mais la présence de Dieu, oui, parce qu'elle est infinie. Et c'est la présence de Dieu que nous voulons communiquer, c'est son Saint-Esprit que nous voulons communiquer. Nous voyons que dans le discours de Pierre, ce qu'il met en avant, en finalement, pour résumer, c'est Jésus. Jésus est mis en avant, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui veut vous sauver, qui veut pardonner votre péché. C'est Jésus qui est mis en avant. Qu'est-ce qui est mis en avant dans nos vies, frères et sœurs? Si le Saint-Esprit est en nous, si nous débordons, alors c'est Jésus qui est mis en avant. C'est pas notre propre personne, c'est pas les qualités que nous pouvons avoir, ou c'est pas d'autre chose de nous, mais c'est Jésus. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce dont nous voulons déborder. Le résultat, il est simple, vous lisez au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Combien de personnes à qui on parle sont souvent indifférentes, sont souvent fermées. Mais nous voyons que quand quelqu'un parle de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le cœur est vivement touché. Et le problème vient pas de Dieu, on le sait, le problème vient du vase qui fait pas forcément le travail que Dieu attend de lui. Et nous avons besoin de laisser le Seigneur combler notre cœur. Sous quelle forme le Saint-Esprit déborde de manière pratique? De quelle manière est-ce que le Saint-Esprit déborde? Dans Éphésiens 3, verset 20, il est dit ce verset qu'on connaît. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Vous connaissez ce verset? Quand on fait quelque chose qui est au-delà de ce qu'on pourrait faire normalement, Ça veut dire qu'on déborde, tout simplement. C'est la définition de déborder. Faire quelque chose plus que ce qu'on peut faire. Donner plus que ce que l'on a vraiment. Mais c'est la définition de déborder. Mais c'est quoi cette puissance qui agit en nous? Qui peut faire infiniment au-delà de ce que l'on pense? Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit, oui. Mais dans le contexte, c'est l'amour. C'est l'amour qui est la puissance du Saint-Esprit et qui doit déborder autour de nous. C'est l'amour que nous devons rechercher, que nous devons, après lequel nous devons soupirer pour être remplis et pour pouvoir déborder. C'est de cette manière que le Saint-Esprit agit avec puissance. Et si Pierre, quand il s'est levé, n'avait pas eu l'amour dans son cœur déversé par le Saint-Esprit, tout ce qu'il aurait dit n'aurait servi à rien. Ça aurait été seulement des préceptes d'hommes. Mais le Saint-Esprit a venu appuyer avec l'amour. Quand les gens regardaient l'apôtre Pierre, ils voyaient dans ses yeux l'amour. Comme les gens, quand ils entendaient le Seigneur Jésus sur terre, ils voyaient dans ses yeux cet amour qui était là. Jésus n'était pas en train de les casser. Jésus n'était pas en train de les blesser par les ordonnances. Il était en train de les aimer en leur disant comment il fallait qu'ils fassent pour s'en sortir. Quelqu'un a dit cela, le service sans altruisme n'est que de l'activisme. On pourrait dire sans amour, c'est pareil. Le service sans amour, c'est que de l'activisme. Ça vous est déjà arrivé de servir sans amour? Je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Je le fais parce que le pasteur m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Ça nous arrive. Mais combien c'est dangereux. Parce qu'après, on peut dire, bon, c'est bon, j'ai fait mon service. Oui, mais ton cœur n'y était pas. Et devant Dieu, ça vaut rien. Les hommes, peut-être, ont été trompés par l'apparence, mais Dieu voit au cœur. Le service que je veux donner au Seigneur, c'est un service qui découle de l'amour. Il y a de l'amour, Dieu me remplit, les vides dans mon cœur sont bouchés, il y a les bonnes rustines du Saint-Esprit qui sont collées. Le Seigneur me remplit de son Saint-Esprit, ça déborde par de l'amour. Et je me mets au service du Seigneur. Voilà ce que apporte la communion fraternelle. C'est pour ça qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est pour ça qu'à cet moment précis, Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour qu'il soit une bénédiction pour les personnes qui l'entourent. On va aller au troisième, tous ensemble, dans le verset 42 du même chapitre. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans en arrière, le Seigneur m'avait conduit de prendre ce verset et de vous poser cette question, comme on vient de le lire, le Seigneur ajoutait des âmes, est-ce que nous voulons que le Seigneur ajoute des âmes? Amen. C'est un désir qu'on a toujours, j'espère, je le crois. Et vous vous souvenez qu'on avait insisté sur ces 4 aspects de la foi, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain, etc. Et de manière simple, sans faire de grandes campagnes d'évangélisation, de grandes distributions de tracts, et merci Seigneur si on peut le faire, mais sans avoir affaire à tout cela, le Seigneur a ajouté des âmes. Parce qu'on a mis ces choses en premier, et c'est sa parole, c'est la parole du Seigneur, c'est pas la parole d'un pasteur, mais c'est Dieu qui a fait la promesse. Quand on met en avant la prière, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, quand on met en avant la fraction du pain, quand on met en avant là ce repas du Seigneur, alors le Seigneur il est obligé d'envoyer les âmes parce qu'il sait que c'est un endroit où les âmes vont être bien reçues. Mais ce matin, je voudrais m'attarder sur ce verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Vous voyez que c'est là encore une fois où il nous a invités à être ensemble. L'unité, le service dans l'unité. Ensemble pour se conforter, s'encourager, s'exhorter. Vous aimez venir dans l'église pour recevoir une parole d'encouragement, pour recevoir une tape sur l'épaule quand ça va pas, pour recevoir une promesse d'un verset. Je me souviens quand j'étais étudiant et que je venais à l'église, souvent je partageais les versets que je venais de lire avec quelqu'un à une personne que le Seigneur me mettait à cœur et je me souviens qu'à chaque fois, ça correspondait à ce que la personne vivait. Et souvent, ça arrivait dans l'autre sens aussi. Il y avait l'effet boomerang. C'est que quelqu'un me partageait le verset et ça me faisait du bien. Et c'est bon de pouvoir venir dans cet état d'esprit, d'être ensemble pour se conforter, ensemble pour s'encourager. Ils étaient ensemble assidus au temple, c'est-à-dire dans ce souci de pouvoir retrouver mon frère ou ma sœur. Il y avait une telle unité à l'époque qu'ils partageaient, ils allaient vendre leurs biens pour pouvoir répondre aux besoins financiers des personnes qui étaient là. Le Seigneur ne demande pas de faire ça aujourd'hui. En tout cas, pas entièrement comme il le faisait, mais en partie, oui, on a tous mis la main à la poche pour aider un frère et une sœur de manière financière, mais c'est tellement bien aussi de ne pas oublier qu'on peut l'aider de manière morale, d'être une oreille attentive, qu'on peut l'aider de manière spirituelle en priant dans sa maison avec elle, pour que le Seigneur la visite. Mon cœur est des fois blessé d'entendre certains chrétiens, alors c'est pas ici, mais j'ai déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, je vais pas porter ceux des autres. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous bénir? Enfin, je sais que c'est pas vous, hein. Mais imaginons. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, je vais pas en plus me charger des autres. Mais oui, mais t'as pas compris qu'en en portant ton frère, ta sœur, le Seigneur va se charger de tes problèmes. Donc ça, c'est tout bénef. Et en plus, il va aider ceux de ton frère. Il va les décharger. Est-ce que nous sommes attentifs? Le point, il est là, est-ce que nous sommes attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent? Bien sûr, qu'il y a le monde qui périt, etc., nos familles, mais le Seigneur nous dit de faire une attention particulière à ceux de nos frères et sœurs dans son Église. Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que quand nous voyons quelqu'un qui a une larme qui coule, ça nous fait quelque chose et on a envie de creuser un petit peu pour l'aider? Ou est-ce qu'on dit, bon, de toute façon, le Seigneur va l'aider, il est grand le Seigneur, mais c'est lui qui va se débrouiller avec? Ouais, mais si nous voulons être visités par le Seigneur, si nous voulons que la grande grâce repose sur nous, ben il faut qu'on fasse aussi, qu'on paye le prix. Et le Seigneur nous invite à porter les fardeaux les uns des autres, à se supporter les uns les autres. Il faut beaucoup de grâce et de Saint-Esprit pour supporter votre pasteur. Mais c'est pour ça qu'il faut vous mettre à genoux. Mais oui. Et votre pasteur aussi peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est ce que le Seigneur nous appelle, à vivre dans cet état d'esprit ensemble, tous ensemble, assidus au temple. Bien sûr, c'est pas un poids religieux qu'on met sur les consciences, mais c'est un besoin. On sait que mon frère, ma sœur est dans le besoin, je veux être à côté de lui au cas où le Seigneur veut m'utiliser. Je veux être là pour l'encourager. S'il y a une personne nouvelle, je veux être là pour lui montrer qu'elle est sur la bonne voie. Et c'est tellement bon de réaliser ces choses. Cette semaine, un pasteur me parlait d'une dame, de 92 ans. Il y a quelqu'un qui a 92 ans ici? Non? Bon, peut-être un jour on y arrivera, hein. En tout cas, cette dame, 92 ans, elle porte sur son visage l'amour de Dieu. C'est une dame qui a toujours le sourire. Une dame qui est très épanouie à 92 ans, elle a quelques soucis de santé, mais elle porte sur elle l'amour du Seigneur. Ce qui fait que quand elle va dans la rue, les gens la trouvent sympathique et discutent tout de suite avec elle. Et elle a qu'un désir dans le cœur, qu'un feu qui brûle, c'est de parler de Dieu. Et donc comme ça, vu que les gens la trouvent sympathique, qu'il y a le dialogue facile, elle parle du Seigneur partout où elle va. Et sinon, tous ses voisins savent qu'elle va à l'église, elle rend témoignage de manière incroyable. Elle est très ouverte, souriante. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que dans l'église aussi, elle fait un travail fabuleux. À 92 ans. Dans l'église, elle regarde les gens. Elle regarde avec... Ah, bien sûr qu'elle le fait discrètement. Mais elle regarde les gens et dit, tiens, il manque telle personne ce dimanche. Et à la fin du culte, elle va voir le pasteur discrètement en disant, vous savez, telle personne n'est pas venue, ça serait bien que vous lui rendiez visite. Ou alors, tel monsieur n'est pas là, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas là. Elle a l'œil attentif aux besoins. 92 ans. J'étais moi bouleversé par ce témoignage en me disant, cette femme, elle a tout compris. Vous savez que on peut pas choisir de vieillir, ça vient s'imposer, mais on peut choisir de bien vieillir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je veux bien vieillir. Je veux de plus en plus porter sur ma vie l'amour du Seigneur. Cette femme, parce qu'elle prend soin des autres, parce qu'elle a cet amour, elle vieillit bien. Et je crois que jusqu'à son dernier souffle, elle sera une bénédiction. Mais je veux pas juste que ça soit cette femme, je veux que ça soit moi aussi. Je veux que ça soit chacun de vous. Que nous soyons tellement remplis l'amour du Seigneur, tellement attentifs aux besoins des uns et des autres, tellement tous ensemble assidus à nous encourager, à nous conforter dans les choses de Dieu, que nous puissions bien vieillir. Et un exemple d'être ensemble nous est donné justement au chapitre 3, verset 1er, juste ce verset qui nous dit « Pierre et Jean montaient, comment ils montaient ? Ensemble, au temple. À quel moment ? À l'heure de la prière. » Et vous connaissez la suite, il y avait un boiteux de naissance, ça faisait 40 ans qu'il était comme ça, et qui a été béni. Mais j'étais interpellé par ce passage où il est dit « Pierre et Jean montaient ensemble ». Souvent, on se retrouve ensemble à l'église, mais on ne monte pas forcément ensemble. Ça peut arriver, mais on ne monte pas forcément ensemble. Ça veut dire que Pierre et Jean, en dehors du moment d'aller à l'église, ils prenaient des temps ensemble. Vous êtes d'accord? Je vais pas trop loin. Je déforme pas la parole de Dieu. Non? Voilà, personne répond. Je m'inquiète. C'est ce que ça veut dire. Ils montaient ensemble. Ils s'étaient retrouvés avant. Combien de temps avant, on sait pas. Mais ils montaient ensemble. Est-ce que, frères et sœurs, pour vous, la communion fraternelle commence à la porte qui est là et finit à la porte qui est là? Je rentre dans l'église. Ah, oh, les frères et sœurs, c'est merveilleux. Youpi, on est ensemble. Et je ferme la porte. Plus personne. Je les connais plus. Je les croise dans le magasin, hop là, je me cache pour pas les voir. Bon, pas ce point. Mais vous comprenez la pensée. Est-ce que il y a un cœur qui est ensemble? Est-ce que nous sommes un cœur, une âme? Ça veut pas dire qu'on néglige notre famille, bien sûr, ça veut pas dire qu'on néglige notre travail, etc. Mais il y a un lien particulier, un lien spirituel. Il y a quelque chose qui fait qu'on est tous ensemble. Pierre et Jean, les deux étaient des disciples fabuleux, ils ont vécu des choses extraordinaires, ils auraient pu chacun de leur côté vivre leur vie et faire du bien. Et ils l'ont fait d'ailleurs par la suite, parce qu'ils ont été séparés soit par la mort ou par d'autres circonstances. Mais à ce moment-là, ils aimaient ces temps où ils étaient ensemble. Je peux vous dire que je me suis fait tellement de bien les fois où je me suis retrouvé ensemble avec des frères pour prier le Seigneur. Avant les réunions, après les réunions. Mais j'ai fait des progrès tellement plus importants que pendant les réunions. Bien sûr que le Seigneur, il se sert de tout. Mais quand on est disposé à être ensemble, le Seigneur, il nous permet d'être encouragé dans notre foi. Et le résultat, est-ce que ça valait la peine? Le résultat, c'est que le boiteux a été guéri. Amen. Est-ce que nous voulons que les boiteux soient guéris? Est-ce que nous voulons qu'il y ait des grâces de Dieu, des délivrances? Est-ce que nous voulons qu'il y ait des bénédictions? Alors, soyons ensemble. Vivons ensemble. Prenons des temps ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on doit habiter tous ensemble. À un moment donné, ils sont tombés dans cet extrême-là et le Seigneur, il a envoyé une petite persécution. Enfin, il a laissé faire une petite persécution. C'est pas lui qui l'a envoyé. Mais pour qu'ils soient dispersés, qu'ils fassent du bien à beaucoup d'autres personnes encore. Sinon, on aurait tendance à se renfermer sur soi. Mais quand même, on a besoin d'avoir ces moments ensemble. Amen. Ensemble pour nous conforter à suivre le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on parlait avec les disciples, voilà ce qui sortait de leur bouche. De la joie. C'est ce qu'il est marqué au verset 47. Prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu. Ils sortaient de leur bouche de la joie. Ils sortaient de leur bouche de la simplicité. De la joie, pas des plaintes, pas de la tristesse, pas des découragements, mais de la joie, de la simplicité, pas de l'orgueil en disant « Regarde tout ce qu'on a accompli ». Non, c'est la simplicité. Il y a des choses merveilleuses qui se passent. C'est merveilleux, 3000 personnes qui se convertissent en un jour. C'est pas mal quand même. Non? Ça vous fait rien. Moi, ça me fait quelque chose. 3000 personnes, mais ils n'étaient pas là en train de dire « Moi là, moi je suis le révérend pasteur des nations apôtres. » Non, c'est le Seigneur qui a fait. Moi je suis comme un serviteur. Simplicité, des paroles simples. Et puis les louanges. Quand on parlait avec les disciples, il y avait des louanges dans leur bouche. Pas des critiques. On peut basculer dans la critique. Mais comme on le disait, c'est tellement bon d'apprendre à dire merci. Comme le rappelait encore Claude. C'est tellement bon. Et quelqu'un d'autre encore récemment me disait « Je m'efforce de dire merci même quand les gens font des choses normales. » Parce que c'est bien d'avoir cet esprit de gratitude. Est-ce que vous dites merci? Est-ce que vous remerciez ceux qui vous servent, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit dans l'église? Est-ce que vous avez ce cœur qui dit merci? Ce cœur de louange? Bien sûr qu'on ne loue pas la personne, on loue le Seigneur, mais on honore aussi celui qui sert le Seigneur. Si on laisse les plaintes, si on laisse l'orgueil, si on laisse les critiques envahir notre bouche, alors on ne travaille pas à l'unité, mais on travaille à détruire l'unité. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Mais si on laisse les paroles de joie, les paroles simples, paroles de louange, paroles d'humilité, alors on est en train de bâtir le royaume de Dieu. Acte 4, verset 23, on va aller rapidement dans les deux derniers. Mais c'est important de les souligner quand même parce que il est question d'être ensemble pour confronter l'adversité. Suite à la guérison miraculeuse du boiteux, au lieu d'avoir tous les honneurs de la ville, ils se retrouvent en prison, les disciples. Et on leur interdit formellement de parler du Seigneur. Et donc, ils passent plusieurs nuits en prison. Ils ont affaire avec les personnes qui sont les chefs religieux de l'époque et qui leur disent cela, mais ils leur disent, nous, on préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer, tout ce qui s'y trouve. Au verset 29, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils étaient assemblés, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des menaces, parce qu'il y avait de l'adversité, il y avait des moments difficiles. Est-ce que parce qu'on est chrétien, on doit vivre des temps difficiles? Oui, la Bible nous le dit très clairement, la Bible ne nous dresse pas un tapis rouge en nous disant le chemin de la vie c'est merveilleux, recouvert de pétales de roses, il y a du violon qui est joué continuellement. Non, des fois c'est dur, des fois c'est tout sombre, sinueux, difficile. Mais il y a la présence de Dieu qui est là. Et il y a les frères et sœurs. On peut être tous ensemble dans l'adversité pour s'opposer à ce que l'adversaire veut faire. Imaginez, les chefs religieux, ils sont en train de persécuter ces deux hommes. Pour l'instant, il n'y a pas une grande persécution, il n'y en a que deux qui sont persécutés. Et les autres auraient pu dire, on vous aime bien, Pierre et Jean, mais on a peur pour nos vies, donc on préfère que vous restiez à l'écart. On va prier pour vous, mais loin, comme ça, il n'y aura pas la persécution sur nous. Est-ce que c'est ça l'unité? Ils auraient pu dire ça, mais ils n'ont pas dit ça. Non, tous ensemble, ils ont dit, Seigneur, vois les menaces. La menace, elle était que pour les deux, mais ils savaient que ça allait se répercuter. Et ils faisaient un. Quand mon frère est dans l'épreuve, est-ce que je dis, bon, c'est son affaire? Ou est-ce que je dis, non, c'est une adversité pour tout le monde? Quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Vous n'êtes pas sûr? Donnez-moi votre main, je vais prendre un marteau. Je vais taper votre doigt. Et on va voir si ça fait quelque chose dans votre corps. Ben, il y a le système nerveux qui va faire remonter l'information jusqu'au cerveau que vous avez mal. Mais c'est comme ça. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand mon frère passe par l'adversité, c'est tout le corps qui passe par l'adversité. Et tout le corps qui veut faire front, qui veut dire « Seigneur, je m'oppose à cela ». Et le dernier verset, qui c'est dans Acte 5, verset 12, ensemble, on veut confronter l'adversité, mais ensemble aussi, on veut communiquer aux perdus la délivrance. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Beaucoup de miracles et de prodiges. C'est ce après quoi on aspire, mais souvent, quand on n'est pas sérieux avec la parole, on veut tout de suite le résultat avant de passer par les étapes, les conditions que Dieu nous demande. Les conditions, elles sont dans ces 5 premiers chapitres, tous ensemble. Chercher autre chose, c'est se tromper de combat. Bien sûr que Dieu Seigneur nous invite à avoir une vie personnelle sanctifiée, d'obéissance, mais l'obéissance passe par le moment de communion fraternelle. Tous ensemble. Ce matin, je ne sais pas comment vous êtes venus. Mais je vous invite à réfléchir à ces paroles. Oui, on veut que la délivrance soit propagé. Oui, on veut que les gens autour de nous soient guéris, soient touchés, que les dépressions soient enlevées, que le Seigneur agisse de manière puissante. Et il le fait en plus, il le fait déjà. Mais on veut se mettre à sa disposition pour que tous ensemble, on puisse voir la gloire du Seigneur. Amen. On va fermer les yeux quelques instants. Je vais inviter tous ceux qui ont compris qu'ils ont besoin de faire un effort pour être ensemble. Là où le Seigneur a envoyé son esprit, c'est dans le lieu où ils étaient tous ensemble. Et le Seigneur veut faire tellement et tellement. Ne laissez pas le diable vous tromper sur la puissance de la communion fraternelle, sur l'importance de la communion fraternelle. Ne laissez pas le diable vous voler des temps précieux dans la communion fraternelle. Mais laissez le Saint-Esprit vous parler et vous montrer que le seul service que Dieu attend, c'est un service ensemble, rempli d'amour, rempli de compassion, un service qui se met à disposition de l'autre et de Dieu. Qui ce matin veut dire dans son cœur, « Seigneur, moi je veux à nouveau, Seigneur, m'engager. Tu m'as accepté dans ton église un jour, Seigneur, mais je veux à nouveau réaliser que je suis dans ton église. » Qui ce matin veut dire, « Seigneur, moi je veux vivre cette vie tous ensemble. Je crois que tu vas bénir ma famille qui est au dehors parce que je vais être tous ensemble avec mes frères et sœurs. Je crois que tu vas toucher le cœur de mes collègues de travail parce que je suis tous ensemble avec mes frères et sœurs, et que je prie, je persévère, et je me laisse encourager, ou j'encourage. Ce matin, qui veut dire, Seigneur, moi, je veux vivre cette réalité. Je veux pas que ça soit des mots dans un livre, je veux que ça soit une réalité dans mon cœur, ce matin et tous les jours de ma vie, que j'ai une famille spirituelle réelle, que j'ai un amour pour celui qui est à côté de moi, que j'ai une attention pour celui qui est à côté de moi. Merci, Éternel. Je vais vous inviter à vous lever dans ces instants. On va prendre...